Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons nous intéresser à ce qui se passe dans la tête des compositeurs, mais aussi dans celle des mélomanes avertis ou non. Nous allons nous interroger sur les mécanismes merveilleux et un petit peu mystérieux qui permettent aux créateurs de créer une œuvre, à produire de la beauté, à transmettre des émotions à partir du simple agencement de son. Pour nous guider dans ce voyage à l'intérieur de notre cerveau, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Jean-Pierre Changeux. Jean-Pierre Changeux, bonjour. Vous êtes neurobiologiste, bien sûr. Vous faites carrière à l'Institut Pasteur, vous enseignez au Collège de France et vous êtes aussi un mélomane averti. Et je viens de l'apprendre, vous êtes également essayé la composition musicale.
Un petit peu. Lorsque j'étais étudiant, j'ai suivi le cours de composition musicale d'André Jolivet, Aix-en-Provence, deux années de suite. Et j'étais là simplement... en auditeur et pas nécessairement en compositeur authentique. Je n'ai jamais eu malheureusement cette possibilité.
Votre modestie vous honore, mais toutefois l'étendue de ces connaissances avec à la fois la neurobiologie et une connaissance quand même intime de la musique démontre que vous serez un guide parfaitement pertinent et enchanteur pour nos auditeurs pour ce voyage dans les rapports entre cerveau et musique. Thème d'ailleurs d'un livre que vous venez de signer avec Pierre Boulez et Philippe Manoury, les célèbres compositeurs, et qui est titré du charmant titre « Les neurones enchantés », qui paraît donc en ce début du mois d'octobre. Mais pour commencer...
Chez Odile Jacob.
Mais pour commencer, pour nous mettre dans l'ambiance et poser le sujet, je vous propose que nous écoutions un court extrait du visage nuptial de Pierre Boulez. Alors Jean-Pierre Changeux, à l'issue de ce court extrait, pouvez-vous nous dire ce qui se passe dans le cerveau humain lorsque nous entendons une telle œuvre ou une autre ?
Il y a d'abord la perception du son par l'oreille interne et ces vibrations sonores font bouger les cils d'un nombre limité de cellules qu'on appelle les cellules ciliées. Et provoque à ce niveau un changement de potentiel électrique de ces cellules réceptrices. Et il est intéressant de noter que, dès le départ, nous avons une transduction mécano-sensorielle, en quelque sorte, qui met en œuvre des molécules qu'on appelle des protéines allostériques, qui sont des molécules capables de changer de conformation et de laisser, par exemple, entrer à travers la membrane des ions chargés qui vont eux-mêmes entraîner ce changement de potentiel électrique. Donc on a affaire à un niveau moléculaire et je pense que tout ce qui va suivre, au fond, est articulé autour de ces éléments moléculaires qui constituent je dirais, l'organisation de base de notre cerveau. Ces cellules communiquent avec d'autres cellules nerveuses qui elles-mêmes propagent des signaux électriques qui vont accéder de l'oreille interne au cortex cérébral auditif. À ce niveau, il va se produire une sorte de représentation élémentaire, non seulement du son, mais de la mélodie, de l'harmonie, de l'ensemble des sons perçus par l'oreille. Et ces signaux vont ensuite être analysés, interprétés par tout un ensemble d'aires cérébrales qui vont à la fois disséquer et resynthétiser une représentation cérébrale et en l'occurrence consciente, donc mentale, de la musique entendue. Et cette synthèse se fait essentiellement au niveau des parties les plus antérieures de notre cerveau, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, et qui est aussi à l'origine de l'espace de travail neuronal conscient dans notre cerveau. Donc il y a à la fois entrée physique, en quelque sorte, des signaux musicaux jusqu'à une resynthèse consciente qui s'accompagne évidemment d'une mise en branle de nos émotions, car il y a à la fois dans la perception de la musique, perception du son, mais évocation d'émotions associées à la perception de ces sons.
Alors à ce stade, j'ai déjà deux questions, c'est passionnant, merci. Dans votre ouvrage, où vous travaillez notamment à singulariser la musique en la distinguant de la parole ou du bruit. Comment se produit-il ?
D'abord, les signaux physiques correspondant au son musical et au bruit sont très différents. Le son musical comporte des harmoniques et est, je dirais, plus organisé que le bruit. Le bruit, c'est une distribution aléatoire de fréquences. Il y a donc une différence de base dans la physique du signal musical et du bruit. D'autre part, pour le langage, certains aspects du langage sont musicaux, s'apparentent à la musique, comme l'intonation et comme certains sons de la voix qui sont aussi utilisés dans des pièces de musique, comme Boulez ou dans l'opéra en général. Le langage diffère évidemment fondamentalement de la musique, d'une part par la manière dont la phrase s'organise dans le temps. La phrase signifiante d'un langage se distingue fondamentalement de une phrase musicale et principalement également par le fait que une phrase langagière a un sens, une signification, alors que une phrase musicale ne possède pas un sens défini au même titre que le langage. Il y a bien entendu des émotions qui peuvent être véhiculées par le langage, mais en ce qui concerne la musique, il y a tout un répertoire d'émotions liées au son perçu qui est singulier, qui ne se confond pas du tout avec celui du langage. D'autre part, on peut dissocier musique et langage au niveau des aires cérébrales. Un exemple classique est celui des aphasiques qui ont perdu l'usage du langage à suite d'une lésion, par exemple de l'aire de Broca ou de Wernicke sur l'hémisphère gauche. Et ces aphasiques chantent. Et on le savait déjà depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est une observation très ancienne qui montre qu'on peut dissocier au niveau de l'organisation de notre cerveau le traitement du langage et celui de la musique.
Vous avez parlé d'une gamme ou d'un répertoire d'émotions provoquées par la musique. Y a-t-il eu des tentatives de les répertorier ?
Oui, il y a eu diverses tentatives par entre autres, un auteur américain qui s'appelle Patel. Et il les a regroupés et a essayé de les définir. Mais je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'un répertoire qui soit aussi objectivement définissable que le sens associé à un son dans un mot du langage, disons le signe linguistique comme de Saussure nous l'a enseigné. Je compare ça dans le livre à une espèce de console d'orgue avec des quantités de notes et de touches qui évoquent des sonorités dont les contenus émotionnels sont définis d'une manière qui reste quand même, dans le cas de la musique, très subjective. Mais ce répertoire existe.
Il y a des débats très anciens et non clos en ce qui concerne la création et l'art, notamment la notion de beau. Est-ce que les neurosciences peuvent nous aider à, non, peut-être pas à conclure ce débat, mais à apporter un nouvel éclairage?
Évidemment, c'est une question qui est indispensable de poser pour un scientifique, si ce scientifique veut s'intéresser aux bases neurales de la musique, de la peinture, ce qui définit l'œuvre d'art. Je préférais utiliser ce terme que le beau, parce que certaines œuvres d'art, prenons le cas de Goya, des Malheurs de la guerre, de Picasso, Guernica, peuvent être extrêmement tragiques, violentes, et inspirer peur, tristesse et compassion, sans qu'on puisse dire que...
En tout cas, c'est pas joli. Ça peut être beau quand même, mais bon.
Ce n'est pas... c'est pas une... je dirais une...
c'est pas une beauté d'agrément.
Définition, voilà, c'est qui correspond à quelque chose qui est une espèce de conception idéale d'une qualité un peu platonicienne. Il y a le vrai, le beau, le bien. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à un ouvrage justement un peu pour contre-attaquer cet aspect, ces essences en quelque sorte platoniciennes. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de règles que j'ai essayé de définir et que je discute d'ailleurs avec Boulez sur ce qui peut constituer des traits propres à l'œuvre d'art par rapport à d'autres objets ou créations qui ne seraient pas des œuvres d'art. Par exemple, des œuvres scientifiques qui peuvent être, dans une certaine mesure, parfois des œuvres d'art dans certaines équations, mais qui ne sont pas faites pour ça.
Disons il y a toutefois un très joli parallèle entre une belle équation et une belle partition.
Oui, absolument. D'ailleurs, nous en parlons à propos justement d'un trait qui est, selon moi, caractéristique, mais pas le seul, en trouverons d'autres, de l'œuvre d'art, c'est la parcimonie. Parcimonie, c'est dire...
L'économie de moyens.
Une économie de moyens, faire beaucoup à partir de très peu. C'est-à-dire, je dirais, quelques notes et créer une émotion profonde. En mathématiques, une équation très simple qui décrit beaucoup de phénomènes. Donc il y a les deux en science et en art. Et Herbert Simon, qui a été d'ailleurs à l'origine de la formulation de ce concept, le fait intervenir dans les deux. C'est-à-dire qu'il considère qu'une équation peut être belle dans la mesure où elle est parcimonieuse. Et je pense que Pierre Boulez est un compositeur qui est extrêmement parcimonieux, en ce sens que lorsqu'on l'écoute, il y a une richesse sonore à chaque instant et une succession de joyaux, en quelque sorte. C'est comme ça que je perçois la musique de Pierre Boulez pour nos oreilles. Bon, certaines personnes ne partageront pas nécessairement cette perception de l'œuvre de Boulez, mais Pour moi, ça en fait partie. Alors, à côté de la parcimonie, nous discutons pas mal la notion d'achèvement. Ça, c'est un point qui est important parce que beaucoup de mélomanes, beaucoup d'amateurs d'art aiment voir une œuvre achevée, si vous voulez, un tableau réalisé, bien fini, etc. Mais d'autres vont s'intéresser aux esquisses. Hein, ils vont collectionner les dessins d'esquisses.
Voire vont sciemment faire des symphonies inachevées.
Alors, il y a des symphonies inachevées, bien entendu, mais il y a aussi des œuvres qui sont délibérément, et par instant d'ailleurs, Boulez insiste beaucoup sur l'aspect inachèvement, qui est pour lui une donnée forte. Certaines œuvres peuvent s'arrêter, être reprises, être réinterprétées. D'ailleurs, lui-même a repris beaucoup de ses compositions et les considérant comme, en quelque sorte, un peu des êtres vivants en train d'évoluer, en quelque sorte. C'est une métaphore. Mais cet aspect-là des choses est intéressant parce que on a toujours tendance à voir une œuvre d'art comme étant établie de manière définitive. Et à cet égard, Boulez est très innovant, en ce sens qu'il considère l'œuvre d'art comme essentiellement, là j'emploie le terme un peu biologiste, comme en évolution permanente en quelque sorte, à la fois même dans son écriture qu'il peut reprendre, retravailler. Et ça a été aussi le cas, par exemple, de certains artistes comme Rouault, qui a beaucoup retravaillé certaines de ses œuvres, qui en a aussi beaucoup détruites, justement parce qu'il il y avait chez lui une recherche permanente. Donc c'est un trait intéressant de l'œuvre d'art qui est à la fois nouveau et peut-être un peu caractéristique. Alors, évidemment, ce n'est pas un inachèvement à partir de n'importe quoi. Hein. Ce sont des éléments qui sont organisés, qui peuvent se développer dans l'organisation. Et là, on touche à un autre aspect qui, pour moi, est très critique et caractéristique de l'œuvre d'art, c'est ce que Alberti, cet architecte de la Renaissance, a appelé le consensus partium, c'est-à-dire l'accord entre les parties et le tout. Et c'est peut-être une notion que certains considèrent comme platonicienne, en ce sens qu'il y a une notion d'harmonie, en quelque sorte, hein. Mais que personnellement, je ne vois pas du tout dans ces termes, mais comme au contraire, une espèce de fonction de notre cerveau à reconnaître les organisations et les relations entre les parties. Alors, les raisons biologiques, cette capacité à reconnaître cet accord, en quelque sorte, cette alliance des parties au tout est peut-être due aussi au fait que dans la nature, les êtres vivants et l'homme en particulier s'intéressent à des partenaires qui eux-mêmes ont une forme, une organisation, si vous voulez, la reconnaissance. Nous avons une vie sociale et nous avons une espèce de représentation de l'autre, on peut y revenir d'ailleurs, qui est, je dirais, construite et structurée. Donc nous savons reconnaître les choses qui ne le sont pas. Et par exemple, chez les oiseaux, couper certaines ailes, ce que je ne ferai pas, mais enfin qui a été fait par certains expérimentateurs, certaines plumes créent un animal qui est difforme en quelque sorte, et le partenaire sexuel ne sera pas attiré par cet organisme mutilé. Bon, c'est une expérience qui je ne suggère pas de faire, mais enfin qui a été faite. Et donc nous avons cette capacité de reconnaître ces régularités dans l'organisation et dans la composition. Donc, pour moi, l'œuvre d'art, elle était à la fois, je dirais, parcimonieuse, elle est organisée et elle a aussi, et c'est un point important, les propriétés qui lui permettent d'être communiquée, elle est communicable. Et là, c'est évidemment une dimension sociale de l'œuvre d'art. Ce n'est pas simplement l'individu qui est concerné. Et le compositeur, comme le peintre, compose, dans les deux cas, pour un auditeur ou un spectateur. Donc il y a une notion de communication intersubjective qui intervient et qui donne à l'œuvre d'art, en quelque sorte, une signification collective qui lui permet de véhiculer un message. J'ai parlé de Picasso et de Guernica. Il y a eu dans la musique des exemples de cette nature. Et je pense que dans le cas de Boulez, c'est surtout pour lui l'occasion de transmettre sa manière de voir le monde sous une forme musicale et sonore, en quelque sorte. C'est son, c'est sa vision musicale du monde qu'il transmet et qu'il essaye de communiquer à ses auditeurs. Donc, voilà un certain nombre de traits qui, s'ils se trouvent réunis, peuvent contribuer à la définition de l'œuvre d'art et de la distinguer, par exemple, d'un verre ou d'une chaise, bien que certains verres et certaines chaises peuvent être des œuvres d'art.
Oui, la frontière est ténue.
Absolument.
Oui, c'est d'où les débats entre ce qui est de l'art, ce qui est de l'artisanat,
oui, et puis aussi en ce qui concerne les œuvres d'art, le goût que l'on peut avoir à les apprécier ou à les rejeter. Hein. Cet aspect-là est important. Et Pierre Boulez, d'ailleurs, discute longuement cet aspect-là des choses. Il y a aussi dans la perception de l'œuvre d'art, pour clore ce sujet, une éducation.
J'allais y venir. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de représentation mentale, de la nécessité d'intersubjectivité, que l'œuvre soit partagée. De fait, un tableau qui n'est pas regardé est-il encore un tableau, ou une œuvre qui n'est pas écoutée est-elle encore une composition musicale? C'est pas sûr. Toutefois, la façon dont elle est reçue, dont cette représentation mentale s'effectue, on en a parlé comme une faculté de l'être humain en général, mais ne peut-elle pas être travaillée? Quel est le rôle de l'éducation musicale, par exemple?
L'éducation,
moi qui n'en ai aucune,
j'étais en train de le dire, est absolument cruciale. Alors, il y a plusieurs aspects l'éducation. D'une part, il est important dès l'enfance, non seulement d'entendre, mais aussi de pratiquer la musique. Nous y reviendrons, si vous voulez, pour développer certaines de nos facultés cérébrales, mais il est évidemment important d'avoir cette fréquentation des œuvres musicales de toutes les époques, d'ailleurs, et sous leurs diverses formes, pour que l'enfant, puis l'adulte, puisse participer à l'échange avec les compositeurs de son temps. S'il n'a fait que écouter de la musique de jazz ou que des symphonies de Beethoven, il aura des difficultés à comprendre, et j'en prends le terme, Boulez, et à apprécier ce qu'il y a d'extraordinaire dans la musique de Boulez, qui peut paraître parfois très hermétique. Donc l'éducation est évidemment centrale dans cette perception et appréhension de l'œuvre d'art et, je dirais, fait partie des fondements d'une éducation équilibrée et harmonieuse. L'autre aspect, c'est que l'exercice de la musique, pas simplement l'audition même active d'une œuvre musicale, faire de la musique, c'est-à-dire jouer d'un instrument, chanter, participé à un chœur ont un effet formateur exceptionnel. Je pense qu'il y a à la fois dans l'exécution de la musique un souci de rationalité, d'exactitude et de précision, et aussi d'émotion. C'est-à-dire qu'il y a une réconciliation entre divers territoires de notre cerveau qui pourraient se développer de manière indépendante et autonome. Et là, ce qui est important, c'est que la musique allie tout ça, permet à l'enfant d'être à la fois, je dirais, scientifique et artiste, simultanément. Et à cet égard, elle a un rôle très bénéfique dans le développement de l'enfant, et je pense qu'il est indispensable non seulement d'assurer une éducation musicale et esthétique, en général, peinture, sculpture, danse en particulier, mais de la faire conjointement à l'éducation scientifique et littéraire. Et je pense que cette formation, cela a été montré, a un rôle très bénéfique dans le développement de l'enfant.
Pour que nous profitions tous de ces effets bénéfiques, je vous propose que nous écoutions un second extrait d'une œuvre de Pierre Boulez. Nous allons écouter « Pli selon pli ». À l'issue de cette brève écoute, Jean-Pierre Changeux, ne peut-on pas évoquer également l'aspect attente ? Vous avez écrit dans votre ouvrage des développements sur le fait que la musique, à la différence d'autres formes d'art, s'inscrit dans le temps et que l'émotion et la façon dont on la reçoit tient aussi de la façon dont on attend une récompense escomptée lorsqu'on la découvre pendant qu'elle se déroule.
C'est une notion très importante et qui existe aussi d'ailleurs dans le langage. Lorsqu'on commence une phrase, on attend l'achèvement de la phrase et le sens qui va avec la phrase. Donc cette notion d'anticipation de la conclusion ou de l'achèvement est évidemment très importante. Et elle est liée, selon moi, ça c'est une interprétation que je propose, au système de récompense. C'est-à-dire qu'il existe dans notre cerveau des ensembles de neurones, essentiellement dopaminergiques, mais pas exclusivement, parce qu'il y a des récompenses positives, dopaminergiques, et d'autres qui sont de type négatif, et qui sont, d'une manière un peu schématique, sérotoninergiques. Ces récompenses interviennent par exemple lorsqu'il y a satisfaction de la faim, hein, ou lorsqu'on a soif et que l'on boit, ou lors de l'acte sexuel, etc. Donc ces systèmes de récompenses interviennent dans la vie quotidienne et même dans la manière dont nous réfléchissons nous-mêmes sur, par exemple, un projet de vacances. Hein. Il va y avoir une histoire qu'on va se raconter qui va créer une forme de récompense. Donc, ça existe à la fois, si vous voulez, sur le plan physique immédiat, mais aussi sur le plan mental, dans l'élaboration d'un raisonnement. Et ces récompenses donc peuvent être évoquées par la relation directe avec le monde extérieur ou lors d'un raisonnement ou d'une expérience mentale que nous effectuons. Ce qui est intéressant, c'est que on s'est rendu compte, ne serait-ce que pour, par exemple, chez le singe, manger une cacahuète, que si on fait l'expérience directe avec le singe, ces neurones dopaminergiques vont entrer en activité. Maintenant, le singe va, à la suite de l'expérience passée, savoir que la cacahuète va être l'objet qui va lui procurer du plaisir. Et par la suite, lorsqu'il voit arriver l'expérimentateur qui tient la noisette dans ses mains, avant même qu'il l'ait prise et qu'il ait mangé lui, il va y avoir une réponse qui est une anticipation des mêmes neurones de la récompense qui arrivera. Et lorsque la récompense arrive, ces neurones d'ailleurs ne fonctionnent plus. Donc l'anticipation de la récompense devient absolument fondamentale dans le comportement du singe comme dans nos comportements à nous. En fait, nous sommes pas simplement des automates réagissant en ligne directe avec le monde extérieur ou à nos propres spéculations mentales, mais nous sommes en permanence en train de nous projeter sur le monde et en quelque sorte d'interroger ce monde et d'espérer dans une certaine mesure une récompense positive et lorsqu'elle ne vient pas, évidemment, avoir un sentiment de frustration. Donc, cet aspect d'anticipation des récompenses est tout à fait central et je pense que dans la ligne mélodique, par exemple, d'une mélodie de Mozart ou de la Marseillaise, je prends des extrêmes, si on s'arrête au milieu de la mélodie, il va y avoir un sentiment de frustration. Voilà. Donc, parce qu'on anticipe la suite qui est déjà mémorisée chez le sujet. Alors, il peut y avoir...
Y compris si l'on ne connaît pas la fin de l'œuvre.
Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il peut y avoir cette anticipation quand on connaît l'œuvre. D'ailleurs, c'est une manière de mettre à l'épreuve la physiologie du cérébral qui accompagne l'anticipation de la récompense, mais aussi, je pense, dans le cas de l'œuvre d'art, ce qui est intéressant, c'est que, compte tenu de ces règles de composition dont j'ai parlé tout à l'heure, l'auditeur va anticiper une évolution harmonique ou le déroulement d'une mélodie qui va en quelque sorte permettre à l'auditeur d'être satisfait dans l'anticipation va se réaliser ou elle va évoluer d'une manière telle qu'une surprise va apparaître et il va y avoir un rebondissement et créer une nouvelle attente et ça fait partie, si vous voulez, ces allers-retours en quelque sorte, du déroulement dans le temps de l'œuvre musicale. Et pour ceux qui aiment et connaissent Boulez, ils peuvent immédiatement espérer la poursuite d'une première proposition musicale, si j'ose dire, et donc y trouver beaucoup de satisfaction, en quelque sorte. Ceux qui connaissent mal Boulez peuvent ne pas percevoir d'attente, si vous voulez, ne pas désirer, mais sinon, disons, se désintéresser ou considérer que les choses ne sont pas, selon eux, organisées d'une manière telle qu'ils puissent espérer une suite. Je pense que c'est là où, je pense, l'éducation, l'environnement culturel, les conditions dans lesquelles le sujet écoute sont évidemment extrêmement importantes. Le contexte, comme on dit. Donc, le contexte joue dans l'attente et son évolution.
Justement, a-t-on fait l'expérience de confronter des personnes d'éducation musicale variée ou de cultures variées à une même œuvre, recueillir les émotions qu'ils ont ressenties, la compréhension qu'ils ont eue d'une œuvre, et qu'en est-il ressorti ?
Ça a été Berlioz, par exemple, avait beaucoup de mépris, si j'ose dire, ou n'accordait aucun intérêt à la musique chinoise, qu'il trouvait très... continue, sans originalité, ennuyeuse, des cris de chat, etc.
Il n'y avait pas les clés pour...
Et donc, il y avait aussi chez cet immense artiste, que personnellement je considère comme un très très grand compositeur, une méconnaissance de cette musique. Et maintenant, des compositeurs comme Boulez, Messiaen, Manoury, qui aussi dans la tradition de Boulez, cette connaissance des musiques orientales est évidemment très importante, parce qu'elle enrichit non seulement le répertoire des sonorités, mais aussi la manière de construire les œuvres, à la différence de la musique polyphonique classique traditionnelle en Occident.
Vous avez utilisé à de nombreuses reprises la nécessité d'une reconstruction mentale, d'une image cérébrale. Oui. Nous l'avons évoqué. En réception d'une œuvre. On écoute une œuvre musicale et on se la représente mentalement. Oui. Dans le cas des compositeurs, est-ce que cette représentation précède ou est concomitante avec la création ?
Disons que le compositeur compose, il crée, c'est un créateur. C'est-à-dire que nous avons parlé de la réception, en quelque sorte, maintenant il va y avoir la production de l'œuvre. Comment ça se passe dans la tête du compositeur ? Je pense que c'est une question extrêmement intéressante. La perception est relativement facile d'accès pour les scientifiques. Il y a toute une série de recherches qui se font sur justement les facultés de perception et de compréhension de la musique. Mais c'est beaucoup plus difficile de réaliser une expérimentation sur la création, la composition. Et pourtant, c'est un des aspects les plus fascinants du cerveau de l'homme. Alors, on peut faire des hypothèses, je vous en propose quelques-unes. La première, c'est qu'il existe une activité spontanée dans notre cerveau. C'est une notion qui est très ancienne, qui remonte à la description de l'électroencéphalogramme par Berger dans les années 20. Et notre cerveau est constamment actif le jour, la nuit, et en particulier lorsque on médite et lorsqu'on réfléchit et que l'on compose. Donc, le fait que le compositeur soit devant sa feuille de papier puisse créer et écrire une œuvre n'est pas du tout un paradoxe, ni même un mystère, mais simplement le fait que, même en l'absence de stimulation venant du monde extérieur, le cerveau est actif. Voilà. Et c'est évidemment à partir de cette activité spontanée, endogène du cerveau, que des objets mentaux nouveaux vont pouvoir se former, être engendrés dans la tête du compositeur. Alors comment ça va se passer ? La thèse que je développe, et dans le chapitre Darwin dans la tête du compositeur, porte sur cette question et l'idée est relativement simple, c'est qu'à un certain niveau d'organisation dans notre cerveau, cette activité spontanée va être organisée autour de représentations sonores, donc va mobiliser aussi des territoires qui sont engagés dans l'audition, plus évidemment le cortex préfrontal qui participe à l'organisation de ces représentations sonores entre elles. Et on peut imaginer qu'il y a donc une espèce de combinatoire de ces représentations mentales qui va se former dans le cerveau du compositeur. Au même titre que, par exemple, au cours de l'évolution des espèces, il va y avoir des variations au niveau de la structure des chromosomes et des supports matériels de l'hérédité qui vont être à l'origine de l'évolution biologique selon Darwin. Bon, pour Darwin, la variabilité se situe au niveau du génome, des gènes. Pour nous, ce n'est pas là qu'elle va se situer. Elle est donc épigénétique. Elle ne touche pas le matériel génétique, mais elle concerne les activités d'ensemble de cellules nerveuses dans notre cerveau. Et celles-ci peuvent s'organiser mentalement chez les compositeurs et être l'objet de sélection. Le compositeur va conserver ou rejeter certaines de ces nouvelles structures qui vont apparaître et germer dans son cerveau et dont il aura conscience. Donc il est nécessaire, évidemment, que tout cela s'opère dans un espace conscient et qu'il y ait des systèmes de récompense qui fonctionnent. Et il va donc se proposer à lui-même des organisations mentales de représentation sonore, les sélectionner, et puis, une fois qu'il les a mises en place dans son espace conscient, les retranscrire sous forme de notation sur la feuille de papier. Donc, c'est encore un modèle un petit peu simpliste et hypothétique, mais au moins qui a la vertu d'être concret et relativement simple, et éventuellement même mise à l'épreuve.
Donc le créateur est à la fois dans une forme de lâcher prise, puisque si j'ai bien compris, même en état de... spontanément, le cerveau travaille en permanence, et dans la maîtrise pour ordonner cette activité spontanée.
Exactement, c'est-à-dire qu'il doit avoir les deux, hein, c'est-à-dire l'aspect innovation par la variabilité de l'activité spontanée et l'aspect organisation via la sélection et le raisonnement. Donc c'est effectivement en ensemble de ces deux processus qui peut mener au travail de genèse et de conception et de développement de l'œuvre d'art.
Donc, pardonnez une dernière question naïve, mais lorsque le compositeur travaille cette œuvre, en quelque sorte, que voit-il ou entend-il ou voit-il ? Et s'il voit, voit-il des notes de musique dont il perçoit le sens, ou est-il dans le sensitif ?
Non, le compositeur, évidemment, les entend. Il y a une oreille interne. Hein, il se représente des sons, il se les imagine, comme quand vous voulez prendre la parole, vous représentez des mots organisés avant de les prononcer. Hein, donc, vous pouvez faire l'analogie et vous dire que le compositeur intervient de cette manière-là. Et ce qui est évidemment important de souligner, c'est qu'il va y avoir des va-et-vient, évidemment. Hein, c'est-à-dire qu'il va commencer à mettre en place une certaine organisation qu'il pourra transcrire, puis il va poursuivre en quelque sorte, il va poursuivre sa transcription. Et cet aspect en quelque sorte darwinien, évolutif dans la création, on la retrouve d'ailleurs dans une image que j'ai présentée ici d'un manuscrit de Pierre Boulez qui a été prêté par Ralph Fasset sur sa première sonate pour piano, où on voit toutes les ratures et les corrections qu'il a introduites dans sa composition. L'œuvre d'art ou le chef-d'œuvre même n'arrive pas, ne sort pas de la cuisse de Jupiter, constituée dans l'ensemble de ses parties. Celles-ci sont produites successivement par essais et erreurs et pour finalement donner l'œuvre d'art dans sa complétude. Il faut noter que c'est évidemment le cas aussi des peintres et que leurs esquisses témoignent justement de ce travail d'essais, d'erreurs dans la composition du tableau final.
Sans compter les repeints successifs que l'on découvre maintenant grâce au rayon X aussi.
Et ce qu'on appelle aussi les repentirs en musique qui sont en quelque sorte homologues de ces ratures que l'on trouve sur le manuscrit de Boulez. Et alors, si on regarde les manuscrits de Beethoven, par exemple, ses esquisses premières, c'est absolument indéchiffrable, tellement il y a de va-et-vient, d'essais, d'erreurs, de corrections, etc. Donc, C'est la composition finale, en général, résulte de ce travail. Il y a des exceptions, et entre autres Mozart, pour certaines de ses œuvres. J'ai une copie chez moi, pour l'original bien sûr, qui se trouve à la Bibliothèque nationale, du manuscrit de Don Giovanni. Et le nombre d'erreurs et de ratures, c'est le premier jet, et avec très très peu de ratures. Donc vous pouvez me dire, alors là, Mozart n'a pas travaillé suivant ce schéma. Moi je dis si, parce qu'il l'a fait avant et il l'a mémorisé. Voilà. Donc il faut considérer que l'œuvre achevée est en fait la résultante d'une longue évolution qui se produit dans la tête du compositeur et aussi entre le compositeur et ce qu'il écrit.
Une dernière question me vient pour revenir à la place qui est la mienne, celle de celui qui écoute les œuvres, ouais, sans jamais penser pouvoir en composer une seule. Peut-on isoler les différentes zones du cerveau qui sont activées par les différents types de musique ? Ou par exemple, est-ce que quelque chose de rythmique active une certaine zone ou provoque un certain type d'activité, tandis que le mélodique en active une autre ? Leur combinaison ensemble produira encore un autre effet ? Est-ce que ça fonctionne un petit peu comme cela ou pas ?
Oui, alors il ne faudrait surtout pas imaginer qu'il y a le neurone du mi et le neurone du sol.
J'en étais quand même pas à penser ça, mais bon, vous avez raison de préciser.
Mais disons que de toute manière, il s'agit d'un fonctionnement qui est très général, qui affecte l'ensemble du cerveau, mais qui évidemment a pour chaque élément de la musique qui est écouté, qui se déroule, des caractères très particuliers, très spécifiques, et qui mobilise certaines régions très définies de notre cerveau. Alors on dit souvent qu'on n'utilise que 10% de nos facultés cérébrales. Vous savez, on entend ça dans le grand public,
on
malheureusement.
On entend ça souvent, oui.
Je dirais heureusement, parce que ça permet justement d'avoir une diversité et une variabilité considérable des activités cérébrales, en particulier en fonction de ce qu'on écoute ou même de ce que l'on dit. Donc, il va y avoir des territoires qui sont plus ou moins engagés dans certains traits. Alors, vous avez parlé du rythme. Il est évident qu'il s'agit d'un aspect très important, mais aussi très défini, particulier, de l'évolution dans le temps de la musique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve que les aires motrices sont activées par la perception d'un rythme. Et simplement parce que ça évoque le mouvement chez l'auditeur, et cette activation donc est intéressante à la fois pour le physiologiste, mais aussi pour l'auditeur, en ce sens que il est en quelque sorte partie prenante dans la perception d'un rythme, parce qu'il le vit, il vit le rythme intérieurement comme s'il, par exemple, il marchait, il courait.
Oui, on comprend mieux pourquoi les armées montaient au front avec des tambours et pas avec des violons.
Exactement. Malheureusement, je préférerais qu'ils ne montent pas au front du tout et qu'ils utilisent des violons pour aller travailler. Mais pour les mélodies et pour l'harmonie, par exemple, les relations verticales entre sons, il y a évidemment certains territoires qui sont activés, et pour la mélodie aussi, ils sont différents. Enfin, c'est la mélodie correspond à l'évolution temporelle d'un ensemble de sons, et l'harmonie, c'est la perception simultanée de plusieurs sons. Ceci dit, il peut y avoir des passages de l'un à l'autre, et je me rappelle fort bien que André Jolivet, par exemple, nous avait demandé de composer des mélodies. Ce que j'avais fait, c'est à la portée de tout le monde, hein, on peut écrire une mélodie. Et pour apprécier la qualité de la mélodie, il nous la faisait jouer sur le piano en mettant toutes les notes de la mélodie à la fois. C'est une manière de percevoir en quelque sorte le caractère harmonieux de la ligne mélodique en mettant toutes les notes simultanément. Donc, c'est intéressant de noter à ces propos que dans la perception de la mélodie, il y a évidemment une mémoire active qui intervient en permanence, qu'on appelle la mémoire de travail, qui fait que une mélodie va être écoutée à un certain moment défini comme un seul son, mais en fait c'est toute une ligne que le sujet perçoit, le passé, le présent, et il anticipe sur l'avenir. Donc il y a cette concomitance entre la mélodie perçue, la mélodie mémorisée et la mélodie anticipée. Et il y a conjonction de tout cela dans notre cerveau.
Avant de terminer par, non pas un intermède, mais une conclusion musicale, nous écouterons en effet, pour clore cette émission, un extrait du Marteau sans maître de Pierre Boulez. Je voudrais vous poser une dernière question, Jean-Pierre Changeux. Finalement, les neurosciences nous permettent-elles de mieux comprendre la musique, ou la musique n'est-elle pas aussi un instrument de mieux comprendre notre cerveau et la façon dont il fonctionne?
Je vous remercie de cette question, parce que la réponse est positive dans les deux cas. Je pense que il est important de comprendre notre cerveau pour mieux comprendre la musique. Ça, c'est une question qui est parfois débattue. Certaines personnes vous diront non, moi je perçois la musique sans savoir du tout ce qui se passe dans ma tête, j'ai pas besoin de le savoir pour l'apprécier. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait exact, parce que on peut d'abord savoir que l'organisation de notre cerveau nous permet d'aller dans cette direction, de percevoir une ligne mélodique qu'autrement on pourrait passer inaperçu, de focaliser notre attention, ça c'est un point très important, qui fait partie des systèmes qui interviennent dans l'écoute, et de savoir que tous ces systèmes existent, et donc de les mobiliser, de les utiliser. Donc je pense que le fait de comprendre notre cerveau, je le pense, nous permet de mieux comprendre la musique. Alors, la deuxième question, qui est évidemment essentielle pour nous aujourd'hui, c'est d'inciter nos auditeurs à faire de la recherche, à travailler sur la relation entre musique et cerveau, et à mieux comprendre les dispositifs qui existent dans notre cerveau pour à la fois produire, créer et entendre la musique. Et à cet égard, je pense qu'il y a beaucoup à faire, et il y a un véritable avenir dans cette direction. Pour ma part, je ne suis pas du tout un spécialiste de la neurobiologie de la musique. Je suis un biologiste moléculaire et je suis toujours très intéressé par la problématique moléculaire, mais je suis quand même suffisamment ouvert aux sciences cognitives, et je l'ai pratiqué entre autres avec Stanislas Dehaene, que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que cet avenir des relations entre cerveau et musique nous permettra de mieux comprendre notre cerveau et ses propriétés perceptives et créatrices.
Merci beaucoup Jean-Pierre Changeux. En tout cas, vous avez fait plus que me convaincre. Vous m'avez en quelque sorte contaminé, car désormais je ne pourrai plus écouter une œuvre musicale sans me demander ce que cela provoque sous mon crâne en entendant les coups de tambour de l'ouverture d'Ainsi parlait Zarathoustra, ou la mélodie envoûtante de Tristan et Isolde, ou l'ouverture de Tristan et Isolde. Je ne pourrai que me demander, mais quelle zone de mon cerveau est activée? Ai-je encore la maîtrise? Et en tout cas, ça m'incitera à revenir à votre livre qui est passionnant. Et j'en redonne, avant que nous terminions, par un nouvel extrait de Pierre Boulez, par les références de cet ouvrage, qui est donc signé Jean-Pierre Changeux, Pierre Boulez et Philippe Manoury. Il est donc titré « Les neurones enchantés, le cerveau et la musique » aux éditions Odile Jacob. Merci encore, c'était passionnant.
Merci à vous.
Thank you.